Bah, je suis ravie d'être là aujourd'hui et je voulais aussi remercier Marilyn pour l'organisation de la journée. Moi je m'appelle Christelle Etchegaray et je suis chercheuse au laboratoire depuis 2 ans maintenant et également à l'INRIA. Je travaille sur des mathématiques appliquées à la biologie. Aujourd'hui je vais vous parler de modélisation mathématique, un petit peu de biologie. Si en cours de route vous avez des questions sur n'importe quoi, n'hésitez pas. Voilà, on peut faire des pauses, on peut discuter et voir ensemble comment on a construit ces modèles avec mes collaborateurs. Ok, alors vous connaissez l'IMB puisque on est ici, donc c'est l'Institut de mathématiques de Bordeaux. Je suis aussi chercheuse à l'INRIA. L'INRIA, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, quand on va par là, sur le campus, à un moment, il y a un bâtiment qui passe sur la route, où il y a un mur végétalisé, tout ça. Bon. L'INRIA, en fait, c'est l'Institut national de recherche dans tout ce qui est sciences du numérique. Donc, ça regroupe des gens qui font de l'informatique, de la robotique, des maths, de l'intelligence artificielle. Il y a un couplage assez étroit avec l'IMB, avec d'autres instituts universitaires. La particularité d'INRIA, c'est qu'on s'organise en équipe projet. Donc moi, j'appartiens à une équipe qui s'appelle l'équipe MONC et qui s'intéresse à la modélisation mathématique pour l'oncologie. Donc tout ce qui est lié à la modélisation de la croissance tumorale, à la fois les points de vue biologiques. Donc c'est un peu lié à ce que je vais dire là. À peu près. Et puis aussi l'aspect clinique, par exemple, comment on peut analyser les images médicales pour mieux comprendre, mieux évaluer le degré d'agressivité des tumeurs, etc. Donc voilà, moi je suis à cheval entre les deux instituts et je profite un petit peu des richesses des deux. Voilà. Alors je voulais commencer par vous parler de mon parcours. C'est cryptique, mais je vais détailler à l'oral. Donc moi je viens du Pays Basque, comme on le voit dans mon nom. J'ai fait mon lycée à Bayonne, j'ai fait une série S et puis en spécialité biologie. Et puis au moment de choisir mon orientation, j'ai choisi de faire des maths parce que je voulais pas, enfin ça allait me manquer. Voilà. Je suis venue ici en fait, j'ai fait ma licence ici en maths et j'ai même poursuivi ici en master. À ce stade, c'était un master de maths théorique qui allait à la fois vers l'enseignement et puis à la fois vers la recherche. Dans tout ce qui était algèbre, géométrie, théorie des nombres, etc. Et puis, à l'issue du master, je me suis rendu compte que c'était pas trop pour moi. Enfin, c'était pas ce qui me plaisait le plus. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à regarder un petit peu autour et je me suis rendu compte que ben, il y avait aussi des maths qui pouvaient être appliquées à des aspects sciences de la vie, médicales, etc. Suite à ce parcours-là à Bordeaux, j'ai été à Orsay, à l'Université Paris-Saclay, où là j'ai refait un Master 2 qui était plus spécifique sur tout ce qui est maths appliquées aux sciences du vivant. C'était super intéressant parce que du coup ça montrait vraiment toutes les gammes d'applications qu'il peut y avoir en lien avec la biologie. Donc par exemple, on peut s'intéresser à tout ce qui est découverte de nouveaux gènes impliqués dans tel élément d'une maladie. On peut s'intéresser à tous les aspects écologie, donc dynamique de proie prédateur entre les espèces. On peut s'intéresser à la biologie cellulaire, je vais en parler aujourd'hui. On peut s'intéresser aussi à tout ce qui est imagerie, imagerie médicale, reconnaissance de forme. Donc en fait, voilà, je me suis rendu compte à quel point, avec les maths, on pouvait toucher une gamme très large de thématiques appliquées. Et je me suis rendu compte aussi que ça mobilisait plein de maths différentes. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ça. À la suite de ce master, j'ai fait un stage de recherche qui était consacré à la modélisation de la migration des cellules. Donc je me suis rendu compte que ben, les cellules bougeaient. Voilà. Ça m'a beaucoup plu et c'était très riche. Donc on a continué en thèse. Du coup, j'ai fait ma thèse à Paris, entre Paris-Saclay et Paris-Descartes. Ça m'a permis d'approfondir cette thématique-là. Ça m'a permis d'apprendre à interagir un petit peu avec les biologistes. C'était une première expérience. Et puis ensuite, après ma soutenance, j'ai effectué quelques post-doctorats, donc des CDD de recherche. Et du coup, ça m'a permis. Donc, j'ai fait une année à Paris. Ensuite, j'ai été à Toulouse, où j'ai étudié plutôt des questions de dynamique évolutive. Donc, voilà, sélection naturelle, modélisation d'une population. Et puis après, je suis venue à Bordeaux, où j'ai fait un post-doctorat plutôt en lien avec l'analyse d'images médicales pour l'évaluation de l'agressivité des tumeurs. Et donc, suite à ça, j'ai obtenu le concours de chargée de recherche INRIA. Et donc, j'ai intégré l'institut et enfin, les deux instituts. Voilà. Du coup, bah, voilà, c'est un exemple de parcours. Dans l'institut, il y a plusieurs types de parcours différents, donc en voilà un. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions par rapport à ça, ou si vous voulez échanger là-dessus. Ok. Oui. Non, tout va bien. Très bien. Ok. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder la partie un petit peu modélisation et biologie. Donc, aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous parler de la réaction immunitaire. Alors, non pas, enfin, bon, c'est très à la mode en ce moment, mais c'est un sujet applicatif qui m'intéresse. Et je me demandais, qu'est-ce qui vous vient en tête à vous quand on parle de réaction immunitaire? Donc, s'il y en a qui ont envie d'intervenir. On pense peut-être Covid, vaccin. Voilà. On passe. Enfin, moi, j'aurais dit on pense à antigène, anticorps, vaccin. Voilà, tout ce système-là. Moi, initialement, disons dans le monde d'avant, je pensais aussi à la première chose qu'on voit en biologie sur la réaction immunitaire, je crois, c'est la phagocytose. Donc, c'est l'occasion de revoir une vidéo de phagocytose. Donc, ici, ce que vous avez, c'est un amas de bactéries. Okay. Et là, on voit les cellules immunitaires qui font leur travail. Et donc, ils vont ingérer les bactéries pour les digérer. Et donc, en fait, ça, c'est un peu la première réponse immunitaire qui est innée et qui n'est pas spécifique, qui se produit dans le corps. Et voilà, donc elle finit son travail. Et donc là, on se rend compte à quel point la cellule, elle peut être très active, et vous pouvez voir déjà à quel point elle est capable de, voilà, se diriger vers les bactéries, elle est capable de se déformer. Et en fait, quand on commence à s'intéresser à ça, c'est absolument passionnant, et c'est assez magnifique aussi. Donc si je reprends la réaction immunitaire un peu grossièrement, donc il y a cette première réponse qui est pas spécifique, okay, qui consiste à éliminer les premières bactéries. Et puis ensuite, il va y avoir tout un système d'alerte qui se met en place, puisque ces cellules sentinelles qui sont dans le corps, elles vont ensuite aller retourner dans les ganglions lymphatiques pour donner l'alerte, en fait. Donc, c'est les petits schémas qu'on a ici. Donc ici, on a notre cellule sentinelle. Okay, elle fait sa patrouille dans le corps. Donc, il faut savoir qu'on en a partout, dans les tissus, on en a dans les vaisseaux. Et une fois qu'elle a ingéré son pathogène, ben en fait, elle va arrêter sa patrouille, elle va vraiment rentrer très très efficacement et très très vite au ganglion pour dire OK, j'ai vu ce type de pathogène. Et ensuite, ça va déclencher la réponse spécifique avec les lymphocytes T, les anticorps, les antigènes, et voilà les choses qu'on connaît peut-être un petit peu plus. Voilà, donc c'est une réponse en deux étapes. Et moi, ça m'amène des questions un petit peu différentes que j'ai envie de partager avec vous. La première question que je me pose, c'est, mais finalement, ces cellules patrouilles, elles sont là partout dans notre corps. Comment ça se passe? Enfin, comment elles font pour aller partout? Comment elles se déplacent? Elles sont présentes dans le sang, mais comment elles font pour se déplacer dans le sang? Est-ce que, voilà, est-ce que les globules blancs, ils ont appris à nager? Comment ils choisissent où ils sortent des vaisseaux sanguins? Voilà, donc ça, c'est la première question que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Et puis la deuxième question que je me pose, c'est ces cellules sentinelles-là, comment elles font pour patrouiller? Quelle est la meilleure façon de se déplacer pour maximiser les chances de rencontrer des pathogènes et d'avoir une réponse efficace, en fait? Donc voilà, ensuite, je parlerai de cette question-là. OK? Très bien. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par la première question. OK? Est-ce que les leucocytes ont appris à nager? Et donc, je vous propose de regarder un petit peu plus en détail comment ça se passe. Donc ici, vous avez bon, des photos de leucocytes. Et puis là, je vais vous montrer une vidéo de circulation sanguine. Donc ici, vous avez un vaisseau. Okay, là, vous voyez des traits, un peu des traits de courant. Donc là, ça représente le flux sanguin. Et puis là, ce que vous avez ici, ce sont des globules blancs. Okay. Donc, je démarre la vidéo. Okay, donc, vous voyez que ces globules blancs, ils bougent. On peut voir ici un globule blanc qui est porté par le sang, qui ne va pas aussi vite que le sang, mais tout de même, il avance. Et puis, il y a d'autres globules blancs qui vont être accrochés à la paroi, qui ne vont pas bouger. Et il y a d'autres globules blancs encore qui vont être capables de plus ou moins rouler sur la paroi des vaisseaux. Et après, on en voit d'autres qui sont carrément sortis des vaisseaux et qui sont déjà dans les tissus. Okay. Donc, c'est ça qu'on observe. Là, ici, ils ont juste coupé le flux sanguin pour voir les globules rouges à vitesse plus lente. Donc, c'est pour se rendre compte à quel point il y a des phénomènes qui se passent à des échelles différentes. Quoi. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est ce qu'on a vu et ce que font ces leucocytes. Et donc, si on doit schématiser, ce qui se passe, c'est qu'on a des leucocytes qui sont transportés dans le sang. Donc ici, on est dans un vaisseau sanguin. À un certain moment, ces cellules elles vont être capables d'interagir avec la paroi vasculaire. Donc il va y avoir certains liens d'adhésion qui vont se faire entre la cellule et les cellules qui constituent la paroi. Et avec cette interaction, ça va amener la cellule dans un état d'interaction faible qui va lui permettre de rouler. Donc il va y avoir des nouvelles adhésions qui se créent à l'avant, et en même temps celles à l'arrière vont se briser. Donc on va avoir ce mécanisme de roulement. Et donc c'est une interaction qui est pas stable, okay, qui évolue au cours du temps. Et puis après, on peut observer deux choses. Donc soit les liens sont trop faibles et la cellule va repartir dans le courant, soit à un certain moment, ça va lui permettre de développer plus d'adhésion. Et c'est là où elle va pouvoir vraiment s'arrêter et s'aplatir contre la paroi. Et puis après, elle va être capable de bouger et de s'extraire des vaisseaux en passant entre les cellules qui forment la paroi. Okay. Donc alors, bien sûr, si on parle avec les biologistes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup plus de molécules impliquées, etc. Mais c'est quand même ce qui se passe principalement. Et c'est un phénomène donc, qui est important pour la réactivité du système immunitaire. C'est aussi un phénomène qui est impliqué dans tout ce qui est développement métastatique en oncologie. Donc très rapidement, lorsqu'on a une tumeur, à un certain moment, certaines cellules vont être capables de s'extraire de la tumeur, de se déplacer dans les tissus, de rejoindre la circulation sanguine et par là, après, d'aller rejoindre d'autres organes. Donc c'est un phénomène qui est beaucoup étudié pour différentes raisons. Et donc, la question qu'on se pose, c'est, ok, du coup, la vitesse du sang qui transporte la cellule est manifestement importante. Ces interactions chimiques qui se passent entre la cellule et la paroi sont également importantes. Est-ce que ça suffit pour décrire ce qui peut se passer, c'est-à-dire le fait que la cellule va s'arrêter sur la paroi ou va retourner dans le sang? Okay. Donc, on ne cherche pas à avoir l'image complète avec le plus de détails possible, on se demande est-ce que ces choses-là suffisent. Et en fait, c'est là où la modélisation mathématique elle va pouvoir nous aider, puisque on ne va pas chercher à tout décrire, okay, sinon ce serait un système beaucoup trop complexe. Par contre, on peut se demander si quelques ingrédients suffisent à avoir le bon comportement qu'on observe. Ça, c'est une première question. Donc, est-ce que qualitativement, on observe la même chose? Et ensuite, si on a un modèle assez simple, on verra que, enfin, je parlerai rapidement du fait qu'on peut ensuite essayer de carrément calibrer vraiment le modèle précisément à des expériences biologiques. Voilà. Ok. Lorsqu'on entame une démarche de modélisation mathématique, il faut essayer de préciser le type d'approche qu'on veut utiliser. Okay. Donc, comme je l'ai dit, voilà, si on cherche à simplement regarder les comportements qualitativement, on n'a pas besoin d'un modèle qui est très très compliqué. Par contre, si on se pose des questions sur les forces exactes qui s'exercent sur la cellule lorsqu'elle est dans le sang, là on va avoir besoin d'avoir une description plus physique et mécanique du phénomène, et donc on peut avoir des modèles qui sont très complexes, comme celui-ci, où on a vraiment une représentation de la vasculature avec une certaine géométrie, on a vraiment une description des forces hydrodynamiques qui s'exercent. Et là, on peut avoir des estimations des forces, etc. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on va faire. Hein. Voilà. Donc, on va juste admirer l'image. Et puis, nous, on va plutôt regarder des modèles très simples qui nous permettent d'avoir la vitesse de la cellule au cours du temps pour regarder à quoi ça peut correspondre. Donc ici, typiquement, on a la vitesse de la cellule au cours du temps Ça démarre à une vitesse qui est proche de la vitesse du sang. Vous voyez que ça évolue d'une certaine manière. Et puis là, vous voyez que, hop, il y a une interaction forte avec la paroi et la vitesse va aller à zéro. Donc la cellule s'arrête. Voilà. Donc nous, on sera sur ce type de description. OK. Alors, je vous propose de démarrer la modélisation. Donc on suit vraiment une approche minimaliste. Donc notre vaisseau sanguin ici, on va considérer que c'est une demi-droite. On va considérer que notre cellule, c'est pas une sphère ou quoi que ce soit, c'est un point. Okay. Donc on a notre cellule qui est caractérisée par sa position sur la demi-droite, x de t, donc la position qui dépend du temps, et par sa vitesse. Donc vous voyez, on est en dimension 1. Et puis, si on considère que à l'instant 0, la cellule elle est en 0, du coup, comme la vitesse c'est la dérivée de la position au cours du temps, on fait un lien entre les deux. Donc si on a la position initiale et la vitesse, on a toutes les positions. OK. Très bien. Donc ensuite, pour la vitesse du sang. Alors la vitesse du sang, a priori, voilà, normalement, il y a des différents profils de vitesse qui s'observent en 3D dans le sang, etc. Nous, vraiment, en 1D, on va considérer qu'on a une vitesse du sang qu'on va noter U, qui est constante. OK. Et donc voilà pour le cadre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand il y a interaction entre la cellule et la paroi? Enfin, dans le cas où il n'y a pas interaction, la vitesse de la cellule, c'est la vitesse du sang. La vitesse est portée à vitesse U. Quand il y a l'arrêt vraiment de la cellule, on a une vitesse qui vaut 0, bien sûr. Et puis entre les deux, quand il y a cette interaction un petit peu changeante entre la cellule et la paroi et qu'il y a un roulement, on va avoir une vitesse qui est plus petite que U, mais qui est non nulle. Voilà. Et donc, pour décrire ça de manière très simple, on va supposer que la vitesse de notre cellule, elle s'écrit, enfin, elle correspond à la vitesse du sang plus un terme de ralentissement. Donc, on va dire que la cellule est ralentie et le terme de ralentissement, il va être proportionnel au nombre de liens qui va se former entre la cellule et la paroi. Du coup, pour l'écrire, on va l'écrire comme ça. Donc, on a V de t, qui est égal à U, la vitesse du sang, moins le terme de ralentissement. Et ici, grand N de t, c'est le nombre de liens entre la cellule et la paroi. Et donc, bon, ce terme ici, gamma, c'est une sorte de coefficient de friction. Peu importe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ça va? OK. Du coup, finalement, si on a la cellule au temps zéro qui est en zéro, ben finalement, toute sa dynamique, elle dépend de la vitesse, mais la vitesse, elle dépend entièrement du nombre de liens entre la cellule et la paroi. Donc maintenant, ce qu'on va chercher à décrire, c'est comment ça se passe, cette dynamique de formation de liens entre la cellule et la paroi. Et donc pour ça, on va considérer qu'on va avoir à certains instants discrets une formation de liens ou une disparition de liens. Okay? Donc si à un certain temps, on a n liens, eh ben avec, enfin, on va prescrire le fait qu'à une certaine fréquence, il va y avoir formation de nouveaux liens, et à une certaine fréquence, il va y avoir disparition des liens. Donc là, je dis fréquence, mais c'est taux, c'est pareil. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que une fois qu'on a le taux de l'événement formation de liens ou disparition de liens, ça veut dire que le temps moyen qui se passe avant la formation d'un nouveau lien ou avant la disparition d'un nouveau lien, c'est donné par 1 sur le taux. OK? Donc voilà l'idée générale, on a n liens, au bout d'un certain temps on sait qu'il s'en forme un de plus, donc ça passe à n plus 1, après au bout d'un certain temps peut-être qu'un lien va disparaître, et c'est comme ça qu'on fait évoluer la dynamique. Okay, donc c'est quelque chose d'assez simple. Et puis ce qu'on va considérer en plus, c'est que on ne va pas regarder vraiment le comportement moyen, on va regarder un comportement qui va être aléatoire. Donc il s'agit du même principe, seulement on va considérer que le temps entre l'instant présent et l'instant où il se passe quelque chose, ça va être une variable aléatoire. Donc on va la tirer selon une certaine loi de probabilité pour qu'en moyenne, on ait toujours ces mêmes taux d'événement. D'accord? Donc avec les taux d'événement, on décrit tout. Okay? Ça nous permet de lancer la variable aléatoire, de tirer la variable aléatoire, d'avoir le temps avant ce qui se passe. Et donc, après, événement par événement, on peut faire évoluer le système. D'accord? Donc, c'est moralement comme ça aussi qu'on fait des simulations numériques. Et ça peut nous donner ce qu'on observe ici. Donc ici, vous avez le temps en abscisse. En bleu, vous avez le nombre de liens. Okay, donc vous voyez que ça augmente par cran ou ça baisse par cran. Et puis en rouge, vous avez la vitesse de la cellule qui correspond. Donc c'est U moins gamma fois ça, donc c'est équivalent. Et donc vous voyez que, voilà, au fur et à mesure que le nombre de liens augmente, la vitesse de la cellule diminue, et puis là, à la fin, on arrive à atteindre zéro, donc la cellule s'est arrêtée. Et puis comme cette dynamique-là, elle est aléatoire, dès qu'on va refaire une simulation, on va avoir différents comportements, et donc on va pouvoir s'intéresser à ce qui se passe en général. Alors ici, j'ai parlé des taux d'événements, je n'ai pas trop décrit comment on les choisissait, mais... En gros, ce qu'on va dire, c'est que notre taux de création de liens, ça va être une fonction croissante du nombre de liens. Donc plus il y a de liens, plus on va en former. Ça, ça décrit le fait que quand il y a pas mal de liens, la cellule est un peu plus ralentie et donc il va y avoir des contacts plus étroits entre la cellule et la paroi. Et puis, c'est ça que j'ai écrit. Et puis, pour le taux de disparition des liens, on va considérer que c'est proportionnel à la vitesse. Du coup, plus une cellule va vite et plus les liens ils vont casser facilement. C'est ça que ça décrit. Et du coup, ça donne ce qu'on voit ici. Et vous voyez qu'ici, il y a une période où il y a un peu un emballement de la formation de liens. Et c'est parce que, voilà, on arrive à assez de liens pour que le taux de naissance y soit assez important. Voilà. Donc en fait, une fois qu'on a décrit tout ça, on a décrit tout le modèle. C'est bon. Et donc là, on a fait nos choix de modélisation. Par contre, il y a autre chose qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux différentes échelles de temps qui apparaissent dans le phénomène biologique. Donc, j'ai essayé de les résumer ici. Donc, quand les biologistes y font des expériences, en fait, on voit les cellules bouger pendant des heures. En fait, le taux de formation de liens, c'est 1000 par seconde à peu près, alors que la vitesse des cellules, c'est de l'ordre des dizaines de micromètres par seconde. Ok. Donc en fait, quand on observe un déplacement cellulaire, il y a une dynamique de formation de liens qui est beaucoup, beaucoup plus rapide. Okay. Et donc se pose la question de où on se place en termes d'échelle de temps. Si on se place à cette échelle de temps-là, on va voir chaque formation de lien individuellement, mais du coup, pour arriver à voir toute la trajectoire et la dynamique de la cellule, on va être assez mal adapté. Et puis si on fait des simulations, ça va être très long, etc. Et du coup, notre objectif, c'est plutôt de nous placer sur l'échelle de temps de la dynamique de la cellule. Okay. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est essayer de changer d'échelle sur la dynamique. Et donc l'idée, c'est qu'au lieu, donc là, je fais une analogie avec la population mondiale, mais au lieu de décrire chaque naissance et mort individuellement et de comptabiliser les naissances et les morts et d'ajuster à chaque instant, plus finement qu'un instant, on va essayer de résumer ce qui se passe un peu en accéléré. Okay. Et puis là, on ne va plus parler de nombre de liens, on va parler de densité d'adhésion, puisque voilà, on est plutôt sur cette échelle-là de description. Donc ça, on peut le faire mathématiquement, je ne vais pas trop le détailler, mais l'idée, c'est qu'en partant de cette dynamique où on voit vraiment les sauts et chaque événement, on va pouvoir... avec ces changements d'échelle, obtenir cette dynamique qui est continue, où on ne voit plus exactement chaque formation de lien individuel, mais plutôt la dynamique globale de la cellule. D'accord ? Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc là, c'est une autre simulation, donc il se passe un peu autre chose. Vous avez toujours la vitesse de la cellule ici, le nombre de liens en bleu. Vous voyez qu'au départ, il y a une interaction assez faible entre la cellule et la paroi, donc la vitesse, ce n'est pas exactement... la vitesse du sang, mais c'est pas très loin. À un moment, il y a une forte période d'interaction ici, qui peut correspondre à du roulement. Donc on a pas mal de liens et la vitesse, elle est quand même largement inférieure à la vitesse du sang. Et après, on voit que ben là, la cellule, elle repart dans le sang, puisque la vitesse, elle repart, elle grandit à nouveau. Voilà. Donc ça, c'est intéressant et déjà, ça nous montre que le modèle, il décrit des situations assez intéressantes. Voilà. Donc après, une fois qu'on a ce modèle continu, je l'ai écrit ici, en gros, on va avoir une équation différentielle qui porte sur la densité des liens au cours du temps. L'idée, c'est qu'on a une certaine dynamique ici, plus un terme aléatoire qui va perturber le système. Okay. Et donc ici, la dynamique, elle dépend entièrement des termes de formation et de disparition des liens. Et on va pouvoir déjà étudier l'équation déterministe qui est associée. Donc là, on a une dynamique déterministe sur le nombre de liens au cours du temps et donc sur la vitesse au cours du temps. Et on va s'intéresser à ce qui se passe à l'état stationnaire. Donc l'état stationnaire, ça veut dire que la dynamique n'évolue plus. Et ça se traduit par le fait que la dérivée en temps de la densité de liens vaut 0. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire n' de t vaut 0. On va avoir ce terme-là ici qui vaut 0. J'ai le temps, allez. Et du coup, on va résoudre donc c plus r n infini. Donc n infini, c'est le nombre de, enfin c'est la densité stationnaire de liens. Merci. Donc c plus rn moins d fois v infini fois n infini. Et puis ça, ça vaut 0. Et puis comme v infini, on sait ce que c'est, ça va nous donner c plus r n infini moins d u moins gamma n infini égale à 0. Et donc vous voyez que finalement, ça va nous donner une équation du second degré. Donc on a r moins du n infini plus gamma d n infini carré qui vaut 0. Voilà, donc on étudie cette équation du second degré. Et donc, selon les valeurs des paramètres C, R, D et U, et gamma, on va pouvoir dire, OK, il y a une solution, deux solutions, pas de solution, et on va voir ce que ça représente en termes de, du modèle et de la dynamique de la cellule. Et du coup, donc c'est un peu ce que j'ai représenté ici. Donc ici, les couleurs que vous voyez, c'est, ça représente la vitesse stationnaire. Quand c'est bleu, ça veut dire que la vitesse stationnaire, c'est 0, donc ça veut dire que la cellule s'arrête. Quand c'est rouge, ça veut dire que la vitesse stationnaire, c'est une vitesse qui est non nulle. Okay. Et du coup, en fait, on peut avoir ce genre de graphe qui montre que selon certaines quantités liées aux paramètres de la dynamique d'adhésion, on va avoir des états stationnaires qui pourront être soit l'arrêt de la cellule, soit la cellule qui se déplace dans le sang. Et par ailleurs, ce qu'on observe, c'est que si on modifie la vitesse du sang, eh ben, on va modifier un peu le paysage, quoi. C'est-à-dire que si le sang va plus lentement, on va avoir plus fréquemment l'arrêt de la cellule à l'état stationnaire. Donc ça nous montre que la vitesse du sang a un effet notable sur la dynamique. Donc voilà, ça c'est comprendre les équations qu'on a obtenues, comprendre la dynamique du modèle, lorsqu'on enlève le terme aléatoire. Et puis une fois qu'on a eu cette petite compréhension-là, on peut regarder ce qui se passe avec le terme aléatoire. Et donc là, il faut imaginer que donc notre vitesse, au cours du temps, c'est une fonction aléatoire. Okay. Et pour la comprendre, là, je vais simplement vous montrer ce qui se passe si on représente la densité de probabilité de la vitesse toujours à l'état stationnaire. Non, je dis une bêtise. C'est la densité de probabilité à l'état stationnaire de la vitesse. Mais en gros, c'est une façon de regarder ce qui peut se passer en termes de dynamique de la cellule et en la considérant comme une variable aléatoire. D'accord ? Donc ici, en abscisse, vous avez la vitesse et on a différents cas et différentes situations selon la valeur de U, donc selon la vitesse du sang. Typiquement ici, donc en rouge, vous avez à chaque fois la vitesse du sang qui est marquée, donc c'est la vitesse maximale que peut avoir la cellule. On voit que quand on a une valeur de U assez grande, donc quand le sang va vite, la vitesse va principalement se retrouver, va avoir des valeurs importantes. Okay, donc là, on a une cellule qui reste dans le sang. Et puis on voit que quand la vitesse du sang diminue, on va avoir une vitesse qui va avoir tendance à aller aussi vers zéro. Donc c'est ce qu'on voit ici dans la transition qui apparaît. Ici, on va avoir une situation où on peut avoir aussi bien des vitesses non nulles, du roulement ou du déplacement dans le sang, et aussi des vitesses nulles. Donc là, on est dans une gamme de paramètres où les deux situations peuvent se produire. Okay. Et puis là, du coup, on a principalement l'arrêt des cellules. Donc voilà, on peut poursuivre cette étude-là sur la compréhension du modèle. Et puis, donc après, on peut se demander qu'est-ce qui se passe maintenant ? Est-ce qu'on peut aller parler avec les biologistes ? Et donc, en fait, là, c'est quelque chose qui est en cours, en fait. Donc moi, pendant ma thèse, j'ai étudié ce modèle-là et j'ai fait ce que je vous ai présenté avant. Et en fait, après, on s'est rendu compte qu'il y avait des biologistes à Strasbourg qui font des expériences sur des cellules tumorales cette fois-ci. Et donc, il y a des expériences où on envoie les cellules tumorales dans des sortes de tubes qui essayent de reproduire la paroi vasculaire. Mais ça permet d'avoir précisément une certaine vitesse de sang dans le tube. Donc, on peut contrôler tout ça. On peut aussi contrôler ces cellules tumorales. Donc, on peut contrôler les types de liens d'adhésion qu'elles peuvent former. Et donc, typiquement, en fait, on s'est rendu compte, on a eu beaucoup de chance que ces biologistes, ils jouent exactement sur les paramètres de notre modèle. Donc en fait, ça colle exactement avec ce qu'on décrit. Et du coup, ça va nous permettre d'essayer de faire des liens entre ce qu'ils ont fait et ce qu'on a fait nous. Et donc typiquement, eux, ils vont avoir différentes vitesses du sang dans les tubes et ils vont compter le nombre de fois que les cellules s'arrêtent au bout, quoi. Donc après, on a une certaine fréquence d'arrêt et on peut comparer ça avec le modèle. Et puis, ils ont aussi des expériences in vivo. Donc là, c'est un embryon de poisson zèbre. Et donc l'intérêt du modèle, c'est que on peut observer facilement ce qui se passe à l'intérieur, puisque c'est plus ou moins transparent. Et puis on peut donc ils peuvent injecter une par une chaque cellule tumorale quelque part par là. Et puis ils peuvent suivre le trajet de la cellule tumorale dans la vasculature. Et donc après, ils obtiennent des sortes de cartes d'arrêt des cellules. Donc ils se rendent compte que les cellules s'arrêtent et sortent des vaisseaux principalement ici pour différentes raisons. Et donc là encore, on va pouvoir se comparer avec leurs expériences, à la différence qu'ici, ben voilà, on a un cycle cardiaque qui est beaucoup plus complexe qu'avoir simplement un U constant. Mais voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire maintenant sur ce sujet-là. Et donc ça clôt ma première partie. Donc si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez prendre la parole. Oui. Alors la question, si j'ai bien compris, c'est est-ce que quand il y a détection d'un pathogène et enfin, déclenchement de la réponse immunitaire adaptative, est-ce qu'il y a adaptation du flux sanguin pour permettre une réponse plus rapide? Ma première réponse, c'est oui, en tout cas pour l'inflammation. Donc l'inflammation, c'est la première réponse qui se passe localement, par exemple quand on se coupe, ça va gonfler, etc., parce qu'il va y avoir dilatation des vaisseaux sanguins en fait. Et cette dilatation des vaisseaux sanguins, elle permet aussi de réduire la vitesse du sang localement, et en fait, a priori, ça permet aussi aux cellules de s'arrêter plus facilement à cet endroit-là, effectivement. Donc c'est bon. Voilà. Après, rapidifier le flux sanguin pour accélérer le retour, ça, je ne sais pas, mais peut-être. Voilà. Ok. D'autres questions? Oui. C'est ça.
Voilà, c'est là. Est-ce que vous êtes basé sur les cours que vous aviez faits de façon discrète avant, ou est-ce que vous êtes basé sur des expériences biologiques pour affiner, pour trouver ce modèle-là?
On s'est basé, donc pour ici, on s'est basé sur des connaissances biologiques. Donc en fait, ça décrit le fait qu'ici, on a une formation de lien qui ne va pas dépendre de N, qui est un peu la formation de base. Enfin, voilà, un taux de base de formation de liens. Et ça correspond à la première étape d'interaction avec la paroi, quand il y a des liens faibles qui se forment. Et ensuite, ici, en fait, ça représente le renforcement des liens une fois qu'il y en a des premiers qui se sont créés. Donc voilà, c'est.
Donc vous êtes basé quand même sur des études théoriques au départ de biologie.
Sur des observations qualitatives, je dirais. Voilà, c'est ce que les biologistes décrivent.
Oui,
voilà. Et ensuite, pour le lien avec la vitesse, ça, c'est un choix. Qui est cohérent avec ce que disent les biologistes, mais là, c'est un choix.
C'est un choix de votre part.
Voilà.
Merci.
Et la même chose sur le modèle de la loi exponentielle, c'était la même idée? Il y a peut-être d'autres lois qui étaient à choisir?
Alors, la loi exponentielle, il peut y avoir d'autres lois, mais classiquement, dans tout ce qui est. Donc là, on parle de dynamique de naissance et mort, en fait. Voilà. Donc, c'est utilisé pour les liens, ça peut être aussi utilisé pour les populations, etc. Et. C'est la loi la plus classique qui est utilisée pour modéliser le temps avant un événement, quand il s'agit d'un événement un peu sans mémoire. Voilà. Sans mémoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on sait qu'à l'instant présent, on a une certaine loi pour le temps avant le prochain événement. Voilà. Ok. D'autres questions? Ok. Très bien. Donc maintenant, j'aimerais aborder la deuxième question qui m'intéressait, qui est la patrouille des cellules dendritiques. Donc ces fameuses cellules qui sont partout dans notre corps, qui patrouillent. Donc c'est ce que vous avez ici. Vous voyez que ça a une forme très spécifique. Ok, donc comment ces cellules-là, elles se déplacent? Comment elles gèrent leur fonction de patrouille? Donc c'est ce que je vous propose d'aborder. Vous verrez que ça revient un petit peu à ce qu'on a fait avant. Donc, à nouveau, ces cellules, elles patrouillent, ok? Donc, elles se baladent un petit peu partout. Il faut qu'elles soient alertes pour pouvoir détecter des choses qu'elles n'ont pas forcément vues avant. Et, enfin, en tout cas, qu'elles ne cherchent pas forcément. Enfin, elles ne savent pas ce qu'elles cherchent à ce moment-là. Et puis, une fois qu'elles ont eu la détection, elles sont capables de rentrer de manière très, très, très efficace. Donc, elles changent vraiment de mode de migration entre les deux effets, quoi. Et en fait... il y a plein de biologistes qui s'intéressent à ça. Comment les cellules font pour adapter leur façon de migrer? Comment ça s'adapte à l'environnement, etc. Donc, il y a plein d'expériences qui sont menées. Et donc, ici, vous avez certaines cellules dendritiques dont on suit les trajectoires. Et donc là, ce sont deux clones. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, on peut avoir des trajectoires qui sont très, très, très différentes entre les deux cellules. Quand bien même, ce sont en gros les mêmes. OK. Donc là encore, c'est un système qui est très complexe, ok. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut, avec la modélisation mathématique, avoir un système minimal qui va décrire ces trajectoires-là et cette façon de se déplacer? Et si possible, avoir une description minimale qui repose sur des considérations biologiques. Voilà. Ok. Alors, moi... En rouge, c'est la trajectoire de la cellule qui est suivie. Ah, pardon. Oui, je ne sais pas si on voit bien. Là, vous voyez des cellules qui bougent, qui bougeotent. Et en fait, on peut traquer les cellules. Donc, en fait, on les fixe et au cours du temps, on va suivre le déplacement du noyau. Et c'est aussi ce qu'on voit ici, mais elle est très rapide. Voilà, mais du coup, on peut voir que voilà, certaines vont très loin et de manière très persistante et d'autres, pas du tout. OK, donc dans ce travail-là, on s'est intéressé à un cadre particulier qui est celui d'une migration sur une surface. Donc quand on a des tissus à l'intérieur du corps et les cellules peuvent migrer sur les tissus. Elles peuvent aussi migrer dans des tubes, en confinement, elles peuvent migrer en 3D. Voilà, il y a plein de choses. Mais déjà, la migration sur une surface, c'est pas mal. Et je tiens à dire que c'est grâce à vous que j'ai trouvé cette vidéo, parce que je l'ai trouvée hier soir. Et donc là, on observe une cellule dendritique qui se déplace. C'est la plus belle vidéo que j'ai trouvée de ma courte carrière. Voilà, donc là, vous voyez vraiment que la cellule, elle se déplace et qu'elle forme des sortes de bras. Vous voyez, donc en fait, les cellules dendritiques, elles rampent, quoi. Enfin, elles font vraiment un peu, voilà, à la manière militaire, quoi. Elles forment des bras qui s'étendent sur la surface et elles s'accrochent, en fait. Donc, voilà comment ça se passe. Et vous voyez que des fois, c'est polarisé, donc ça apparaît plus à un endroit. Ça lui permet d'avoir un grand déplacement. Il y a d'autres fois où c'est tout autour de la cellule et du coup, ça lui permet de voilà, sentir un petit peu tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc moi, je trouve ça fascinant. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y avait une activité là, il y avait une activité là, puis ça a lâché d'un côté, ça lui a permis de partir. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on cherche à décrire. Et donc, pour notre modèle... On a essayé de faire comme précédemment, on a essayé de rester simple. Donc ici, vous avez le schéma de ce qu'on a vu avant, donc typiquement l'œuf au plat. Donc ici, vous avez le noyau, la cellule qui est étalée sur la surface. Et puis là, vous avez les petits bras qu'on a vus. Voilà. Donc c'est des déformations qui se forment, qui sont très dynamiques et qui vont s'accrocher. Et il va y avoir des forces de traction qui sont exercées. Donc voilà, il faut vraiment imaginer ça. Donc on étend, on s'accroche, on tire. Donc nous, on va considérer qu'on est sur une surface, que notre cellule, à nouveau, c'est un point. Donc on ne va pas essayer de décrire précisément la forme. Et puis, on va se baser sur la physique, donc la seconde loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces exercées sur un système, c'est la masse fois l'accélération. Et ici, des types de forces, on en voit deux principales. Il y a toutes les forces de traction exercées par les bras, et puis il y a la force de friction qui se produit quand la cellule avance, puisque en fait, elle adhère de tout son long sur la surface. Donc en fait, ça frotte fortement. Et donc voilà, l'idée, c'est de mettre en balance les deux. Et la façon la plus simple de décrire une force de friction, c'est de considérer que c'est proportionnel à la vitesse et ça s'applique en sens opposé, tout simplement. Alors, il y a une spécificité ici sur les cellules, puisque à cette échelle-là, microscopique, et dans ce système où on rampe, les forces de friction, elles sont énormes et la masse de la cellule, c'est infinitésimale. Donc en fait, dans ce régime-là, on va négliger le terme d'accélération, donc on dit qu'on néglige l'inertie, et on est vraiment dans une échelle où on a vraiment action-réaction. Quoi. Il se produit une force, il y a une réaction instantanée. Si on produit la force inverse, on revient en arrière, il n'y a pas... voilà. Enfin, si à l'échelle des cellules, on fait du ski, voilà, on pousse sur le bâton, on avance et on s'arrête direct. Quoi. Voilà. Il faut appliquer des forces en permanence pour qu'il y ait un déplacement. Du coup, donc, à cette échelle-là, on arrive... à l'idée que la somme des forces vaut zéro, il s'équilibre à chaque instant. Et donc ici, c'est la force de friction, c'est simplement moins une constante fois la vitesse. Bon, c'est gamma, la constante. Du coup, on va avoir que gamma fois la vitesse, c'est la somme des vecteurs forces qui correspond au bras. Pour simplifier, on va dire que chaque vecteur force, il est de norme 1. Okay. Du coup, finalement, à chaque fois, on va simplement caractériser les forces par l'orientation des bras qui sont formés. Du coup, finalement, on a n déformations au temps t, et puis on va regarder l'ensemble des orientations de tous les bras qui sont présents au temps t. Voilà. Donc, voilà en gros la description. Et du coup, comme précédemment, qu'est-ce qu'il nous faut pour décrire la dynamique ? Il nous suffit d'avoir comment évoluent les bras au cours du temps. Donc on va décrire non plus la formation et la disparition de liens, mais la formation et la disparition de bras. Voilà. Donc moralement, c'est pareil. En pratique, c'est un peu plus compliqué, mais ça se verra pas. Donc on va faire comme avant, on va considérer qu'à un certain taux lambda, on va former des nouveaux bras, et puis à un certain taux mu, des bras vont disparaître. Donc, pour préciser ces taux-là, je vais rester sur une forme même très proche de ce qu'on a vu avant. Donc, pour la formation, Donc, pour la formation, on a la même chose. Donc, il y a une formation un peu spontanée de bras, un peu n'importe où. Et puis, il y a un terme de renforcement parce que quand un bras se forme dans une direction, à l'intérieur de la cellule, ça provoque toute une cascade de forces et d'interactions chimiques qui va favoriser la formation de nouveaux bras à côté. Donc on a cette dynamique de renforcement-là. Et puis là, on va considérer que chaque bras a une certaine probabilité de disparaître classique. OK. Donc là où on va aller un peu plus loin pour décrire ce qui se passe dans la cellule, c'est qu'on va considérer qu'en fait, notre taux de formation spontanée de bras, il ne va pas être si simple. Il va dépendre de l'orientation du bras en question et il va dépendre de où va la cellule et à quelle vitesse. OK. Donc l'idée, ça va être que plus la cellule va vite, plus en fait les bras vont se concentrer dans une même direction. Donc si une cellule va très vite dans une direction, en fait elle s'est polarisée, donc elle a vraiment un avant et un arrière. Du coup, elle va former des bras dans la direction du déplacement. Et donc c'est ça qu'on encode en fait dans cette fonction-là. Et puis à l'inverse, quand la cellule ne va pas très vite, eh bien, elle peut former des bras un petit peu partout et puis sentir un peu ce qui se passe autour. J'y viens. Merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est l'idée de ce qu'on veut décrire. Et moralement, ça revient à dire que lorsqu'un bras va se créer, on va tirer aléatoirement l'orientation du bras qui est formé. Et ici, vous avez comme un échantillonnage de la loi selon laquelle on va tirer le bras. Et en fait, je ne l'ai pas écrit, mais ça dépend de la vitesse de la cellule. Donc, si on a une vitesse faible, on va échantillonner de manière uniforme. Et si on a une vitesse qui devient forte, là, on va échantillonner préférentiellement dans la direction du déplacement. Et donc, ce paramètre alpha, En fait, il va décrire la force du couplage entre la vitesse de la cellule et la polarisation. Voilà. Donc si on a un alpha faible, ça veut dire que même si la cellule va très vite, elle ne va pas assez le sentir et assez adapter sa formation de bras. Si alpha est fort, dès que la cellule part dans une direction, elle va très très vite se polariser. Okay. Donc voilà la nouveauté par rapport à avant. Et on peut faire exactement comme avant. Donc ici, on a cette dynamique vraiment de saut, on décrit chaque bras individuellement. Mais en fait, toute la membrane cellulaire, elle fluctue de manière continue. Donc, on peut aussi faire cette limite continue, mais c'est après. Mais en tout cas, on peut faire des simulations numériques et représenter des trajectoires qui sont obtenues. Donc là, vous avez trois trajectoires de cellules pour des valeurs de alpha différentes, justement. Donc, quand on a un alpha faible, vous voyez que ça nous donne une morphologie de trajectoire assez resserrée. Quand alpha est intermédiaire, ça grandit un petit peu. Et puis, quand alpha est grand, on va avoir des trajectoires qui vont explorer plus de territoire. Donc en fait, on a bien ce lien entre une description de la biologie à l'échelle de la membrane et puis ce que ça produit vraiment sur le comportement macroscopique. Donc c'est chouette à voir, ça fait plaisir. Donc on a différentes morphologies de trajectoires bien décrites par le modèle. Et puis par ailleurs, si on compare à des trajectoires expérimentales, on se rend compte, enfin, en tout cas les biologistes trouvent que c'est assez cohérent du point de vue des morphologies. Alors là, du point de vue des gammes d'espace exploré, ça ne correspond pas, mais c'est simplement une question de paramètres. Quoi. Je voulais juste montrer les morphologies. Voilà. Et donc... Ouais. Alors celle-ci, je crois que ce n'est pas le même type de cellule exactement, mais voilà. Oui, oui. Ouais. Mais c'est l'idée. En tout cas, ils ont fait la même chose. Quoi. Voilà. OK. Donc ensuite, comme j'ai dit, on peut aussi essayer de passer à une équation en dynamique continue. Okay. Et une fois qu'on fait ça, on obtient ce qu'on a ici. Donc moralement, on a voilà, un terme déterministe qui décrit vraiment la conséquence de la formation des liens, plus un terme aléatoire qui va décrire le côté aléatoire de la formation de liens. Quoi. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici ? On obtient en gros un terme en tangente hyperbolique de alpha V. Donc la tangente hyperbolique, ça ressemble à ça. Et du coup, ça montre bien que quand le module de la vitesse augmente, on va tendre à saturer vers une certaine valeur. Et puis quand la vitesse diminue, on va avoir un coefficient ici plus faible. On retrouve ici le fait que ça dépend du paramètre de sensibilité. Et en fait, ce terme-là, il multiplie le vecteur vitesse normalisé. Donc en fait, c'est le vecteur unitaire qui décrit la direction du déplacement. Du coup, plus ce terme-là il est fort, plus on renforce la direction du déplacement, plus ce terme-là il est faible et moins c'est le cas. Donc voilà, on était contents. Et puis ici, on a un terme de renforcement de la dynamique qui n'est pas directionnel. Quoi, voilà. OK. Et du coup, une fois qu'on a ça, on peut aussi mener des études. Donc on peut regarder la distribution de probabilité de la vitesse, on peut regarder ça sur les équations, etc. Je voulais simplement illustrer le fait qu'avec des simulations, déjà, on voit que... Donc ici, j'ai lancé plein de simulations de trajectoire, j'ai récupéré les vitesses. Donc ici, ce sont des échantillonnages de vitesses en 2D. Et donc là, pour alpha petit, on voit que les vitesses, elles se concentrent autour de 0. Et puis quand alpha augmente, on voit que ben, il n'y a pas beaucoup de vitesses nulles ici. Donc ici, c'est vitesse nulle. On va avoir des vitesses qui sont principalement non nulles, mais en 2D, donc dans toutes les directions. Et du coup, ça dépend de notre paramètre de sensibilité. Et puis, en termes de résultats théoriques, on peut aussi obtenir un temps de persistance moyen. Donc, c'est le temps moyen qu'on passe dans une direction donnée. Et ça, c'est intéressant parce que les biologistes le calculent aussi sur leur trajectoire. Donc, maintenant, on va essayer de faire des comparaisons entre leurs mesures et puis nous, ce qu'on a de manière théorique. Donc voilà ce qu'on fait dans ce cas-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, comme avant, le comparer à des trajectoires expérimentales. Il y a pas mal de données parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêt là-dessus. Et en particulier, il y a eu une course mondiale de cellules en 2011. Donc voilà, c'était la finale, ça, je crois. Voilà. Donc en fait, dans le monde entier, enfin, il y a eu plein de labos qui avaient certaines cellules et qui devaient faire exactement la même expérience. De ce que j'ai compris, ça, c'était pas exactement. Enfin bon, c'est jamais propre. Enfin, plus on multiplie le labo, et puis il y a des chances que ça soit pas si identique. Mais enfin, ça a permis d'avoir des données très très massives en fait sur différents types de cellules et leurs propriétés de migration. Donc voilà, il y a une première option qui est de comparer à ces expériences-là. Après, il y a d'autres biologistes qui s'intéressent à l'effet de certaines drogues. Enfin, en fait, ils donnent certaines molécules aux cellules. Ça va modifier leur dynamique de création de bras. Et puis après, ils observent différents types de trajectoires. Et vous voyez qu'elles sont très différentes. Donc, avec notre modèle, on peut essayer de comprendre un peu ben voilà, d'où ça vient. Est-ce que ça, on peut relier ça à certains paramètres dans notre modèle? Est-ce qu'on peut décrire toutes ces trajectoires ou pas avec notre modèle? Donc voilà, c'est plein de questions intéressantes maintenant. Voilà. Et puis ensuite, on peut aller plus loin. Donc là, on a regardé une certaine situation qui est facile. On est sur une surface, il n'y a rien sur la surface. Ensuite, on peut se demander ce qui se passe quand il y a des choses dans l'environnement. Parce que typiquement, pour la réaction immunitaire, en fait, il y a des signaux chimiques qui sont envoyés aux cellules pour les attirer. Donc en fait, donc là, ce que je vais vous montrer, c'est à nouveau une autre cellule. Et puis là, ce que vous voyez, c'est une pipette. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des chats et qui ont un laser. Mais en gros, c'est plus ou moins ce qui se passe là. Donc le biologiste, avec la pipette, il met certains signaux dans le milieu. Et puis en fait, il balade la cellule. Voilà. Donc il s'amuse à son échelle, voilà. C'est rigolo. Donc on voit en tout cas que la cellule, elle est capable de sentir le signal, elle est capable de répondre au signal. Et vous voyez qu'elle forme les petits bras dans la direction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de décrire aussi dans le modèle en ajoutant des petits éléments. Et puis, il peut y avoir aussi des choses dans le milieu qui guident la migration. Donc il y a aussi beaucoup d'obstacles dans le corps humain. Il y a des expériences qui sont faites où on a des micros... Enfin, c'est des obstacles, c'est des pylônes, en fait. Voilà. Il y a des micro-pylônes dans un système. Et en fait, certains biologistes s'intéressent à comment les cellules réagissent à cette succession d'obstacles. D'une part, on peut s'intéresser au lien entre la périodicité des obstacles et le comportement. Il y a des gens, je crois, qui essayent d'utiliser ça pour trier les cellules. C'est-à-dire que certaines cellules tumorales, on pourrait évaluer leurs propriétés en les mettant dans ce genre de système. Et puis, il y a aussi tout ce qui est dynamique d'adhésion. Donc, je vous ai dit qu'il faut que les cellules s'accrochent pour pouvoir avancer. Ici, c'est une expérience où les cellules ne peuvent s'accrocher que sur les triangles. Donc, c'est intéressant parce que le triangle est polarisé vers la gauche. Enfin, donc, disons que la cellule s'étale sur le triangle et elle est plus large à gauche. Mais en fait, si je remets... Hop. Mais en fait, ça montre aussi l'importance de la dynamique des bras, puisqu'elle s'accroche beaucoup plus à droite, puisque la surface est plus large qu'ici. Et du coup, on se rend compte qu'un système comme ça, il est capable de biaiser la migration à droite. Voilà. Donc dans le corps humain aussi, il y a plein d'éléments comme ça, mécaniques, qui peuvent permettre de biaiser les migrations. Donc ça aussi, on pourrait essayer d'étudier avec notre modèle, comparer avec des données et tout ça. Donc j'ai beaucoup de travail. Et voilà, donc c'est la conclusion de mon exposé. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
À quoi correspondrait le facteur alpha dans le vivant?
C'est une intuition. Je dirais que ça pourrait correspondre à différents types de cellules. Mais du coup, différents types d'organisation interne. C'est assez, voilà, il y a les mêmes éléments, il y a les mêmes ingrédients dans les cellules, mais qui s'organisent de manière différente. Et du coup, mon avis, ce serait que ça pourrait décrire différents types de cellules.
Parce qu'elles sont différentes chimiquement, parce qu'il y a une différenciation.
Il y a une sorte de différenciation fonctionnelle, ouais. Voilà. Il y avait une question au fond. Très bonne question. Ça vient du fait que je l'ai caché, en fait. Mais en gros, ici, dans cette fonction-là, J'utilise le fait qu'on va tirer l'angle du bras selon une sorte de loi normale, mais loi normale angulaire, quoi, voilà, pour choisir un angle. Et en fait, quand on fait tout le travail de changement d'échelle, ce qui apparaît ici, ce n'est pas la tangente hyperbolique, c'est une forme qui va dépendre des moments de la loi normale circulaire, qui fait intervenir les fonctions de Bessel, et on atterrit à une fonction qui se comporte comme une tangente hyperbolique. Voilà. Ok. Oui. Alors, il y a des deux. Alors, dans mon équipe, quand on se dirige plus vers des applications cliniques, on est contacté par des médecins qui s'intéressent à certaines questions et qui ont certaines données. Donc, on est sollicité, on discute et puis on voit si nous, on peut apporter quelque chose ou pas. Donc, voilà, c'est notre choix et ça répond aussi à une demande. Ici aussi, dans l'interaction avec les biologistes, ça répond. Quand il y a des données, nécessairement, ça répond à une demande de leur part. Mais il y a aussi toute une partie, tout ce qui me plaît là au niveau modélisation, j'ai envie de le faire de toute façon, en sachant qu'après, bien sûr, il y a des données et que je pourrais interagir avec des biologistes. Mais voilà, je me dirige aussi selon ma curiosité, quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est d'aller vers ces trucs de signaux chimiques, etc. Donc, je ne vais pas attendre qu'on me le demande de le faire pour le faire. Mais voilà, il y a des deux. Et eh bien, du coup, je vous propose qu'on aille faire la pause. Ouais, merci.
Quelques commentaires. Donc, on va faire la pause. Normalement, je pense qu'il y a du café, mais les viennoiseries sont un petit peu en retard, mais elles vont arriver pendant la pause. Vous avez, donc, pour ceux qui veulent manger tout à l'heure au Haut Carré, vous pouvez donner un chèque à Elodie. Normalement, elle vous avait envoyé un mail pour vous dire préparer un chèque parce que avec des espèces, c'est vraiment très 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 compliqué pour elle. Donc peut-être mettez-vous d'accord avec quelqu'un qui a un chéquier. Vous pouvez vous payer en douce. C'est 6 euros. Voilà, c'est pas non plus. Voilà, je pense que c'est tout. Les conférences sont normalement enregistrées. Je ne sais pas combien de temps ça mettra avant que ce soit sur le site, mais voilà. Et donc, si vous